Mes bien chers frères, nous en avons dit assez en sermon sur la lutte entre les deux cités, et je veux reprendre notre cycle de sermons sur la doctrine chrétienne. Car saint Thomas d'Aquin nous dit que à trop suivre les méandres de l'erreur, l'exposé de la vérité finit par perdre en clarté. Cependant, d'abord, j'ai l'intention de faire quelques conférences sur la révolution dans l'Église, qui ne seront pas des sermons, qui permettront par conséquent un meilleur approfondissement. Je veux également faire une série d'exposés, ça je pense que c'est nécessaire, sur les objections que vous entendez souvent, sur les questions d'actualité auxquelles vous ne savez pas toujours quoi répondre. Par exemple, pourquoi le divorce n'est-il pas possible? Est-il possible que l'âme sorte du plus ou moins du corps pour voir l'au-delà et revienne ensuite dans le corps, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente? Les animaux ont-ils une intelligence? Je pense qu'il faudrait également parler pourquoi le sacre des évêques par Mgr Lefebvre ne fut pas un schisme. Dans tout cela, le seul ordre que je suivrai sera celui de votre utilité. Et puisqu'il s'agit de votre utilité, j'attends que vous me posiez les questions, les objections que vous entendez le plus souvent, auxquelles vous avez du mal à répondre, les questions qui sont posées en famille, par exemple, ou celles que vous posent vos collègues de travail, etc. Particulièrement les jeunes, qui, au lycée, au collège, surtout au lycée, entendent beaucoup de choses et ne savent pas toujours quoi répondre. Autrement dit, je me considère comme un curé à distance, un curé de paroisse à distance, et je tiens à entretenir des liens avec vous tous que je considère comme mes paroissiens. Comme il n'est pas possible que je vous visite pour mieux faire connaissance avec vous, ça va être à vous de faire la démarche. À travers mon site, là, sur la page contact, de faire la démarche, de prendre contact avec moi. Quelques-uns d'entre vous m'écrivent déjà, et je leur en suis très reconnaissant. Mais comme je vous le disais, je tiens à faire une paroisse par correspondance. Enfin, à distance, disons. Nous avions commencer l'étude de la doctrine chrétienne par les vertus, parce que j'ai voulu commencer par le plus concrètement le plus important, et puis nous sommes allés jusqu'au terme du catéchisme et de la somme de saint Thomas d'Aquin, et maintenant il faut prendre le début que nous n'avons pas fait, qui est très important lui aussi, qui contient énormément de choses qui sont des réponses directes aux erreurs de notre temps, et qui contredisent directement les ennemis de Dieu et de l'Église. Donc nous allons commencer par le tout début de la somme de saint Thomas d'Aquin, qui pose la question « Peut-on découvrir la vérité divine et comment ?» Saint Thomas s'exprime toujours par des questions, parce qu'il veut vous associer à sa démarche intellectuelle, et non pas vous asséner ses conclusions. Il aurait très bien pu dire « Voilà comment on peut découvrir la vérité divine. » Mais il veut que vous réfléchissiez avec lui, et c'est pourquoi il pose des questions, et tout son enseignement est fait à partir de questions. C'est la même chose dans le catéchisme, hein. On a des réponses à des questions. Cela prouve le grand respect de l'Église, du catéchisme, de saint Thomas, le grand respect pour la raison de l'homme, pour l'authentique liberté de l'homme, nous en avons parlé de la liberté, il y a la vraie et la fausse, la vraie liberté de l'homme qui doit entrer pleinement, librement, par une démarche personnelle, dans les vérités divines. Et cela montre non seulement le respect de l'Église, mais également votre devoir. Votre devoir qui est d'avoir l'intelligence de la foi, surtout aujourd'hui, de manière à pouvoir vous guider par vous-même, à pouvoir guider vos enfants, à pouvoir prêcher la foi, l'expliquer, convertir les incroyants, répondre à leurs objections. Saint Thomas nous dit, entre toutes les études auxquelles s'appliquent les hommes, celle de la sagesse, et donc de la sagesse divine évidemment, l'emporte en perfection, en élévation, en utilité et en joie. L'Écriture sainte nous dit « Heureux l'homme qui s'appliquera à la sagesse », c'est-à-dire à l'étude et à la connaissance de la sagesse. Et saint Thomas explique que l'étude de la sagesse cause l'amour de Dieu et par conséquent l'amitié, l'amitié avec Dieu. Et l'Écriture sainte nous dit que la sagesse est un trésor inépuisable, tel que ceux qui en ont usé ont eu part à l'amitié de Dieu. Et enfin, saint Thomas nous dit que quant à l'utilité, la sagesse nous conduit au royaume éternel, et enfin la joie, puisqu'elle fait entrer dans la joie de Dieu. Eh bien, pour toutes ces raisons, nous allons répondre à la question de saint Thomas, peut-on connaître Dieu et comment? Peut-on connaître les vérités sur Dieu et comment? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La connaissance de Dieu se fait de deux manières, par la raison naturelle et par la foi. Ah, vous n'êtes peut-être pas habitué à entendre prêcher ces vérités, et pourtant elles sont très importantes. Alors la connaissance par la raison naturelle, c'est celle que vous mettez en œuvre dans toutes les choses profanes. Eh bien, les choses profanes ont une cause. Les choses profanes répondent à une sagesse. Et cette sagesse, vous ne la trouvez pas que dans les choses profanes, vous pouvez monter plus haut. Lorsque vous montez, vous acquérez la science, vous exercez la raison, et vous pouvez monter très haut jusqu'au Créateur. Avant que je développe un peu cela, il faut que je vous dise qu'il est important de rappeler cette voie de la connaissance de Dieu par la raison, tout d'abord parce que saint Paul, Romains 1, 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et saint Paul va développer l'argument et faire honte et confondre les ennemis de Dieu en leur disant « Ce que vous avez vu, vous n'en avez même pas tenu compte. Vous avez imaginé des fables pour ne même pas tenir compte de ce que vous avez vu. » Certes, il n'y a pas que cela, il n'y a pas que la connaissance par la raison, mais nous allons voir après. Pour l'instant, nous sommes dans la connaissance par la raison. La preuve de la connaissance par la raison, je vous la prends dans l'Église. Hein. C'est pas parce que ça me plaît que je vous prêche là. C'est parce que le Concile Vatican I, qui était vraiment un concile prévu pour répondre au monde moderne, a commencé son tout premier enseignement par enseigner la connaissance de Dieu par la raison et par la foi. Si le Concile Vatican I consacre tout un enseignement à ce sujet, c'est que ce sujet est important et il le prouve. Je l'ai dit, depuis le protestantisme, où la raison s'est rendue plus ou moins indépendante de Dieu, en se rendant indépendante du magistère de l'Église, elle est devenue tellement folle, c'est pas le terme du concile, mais c'est cela que cela signifie, que même des chrétiens ont fini par perdre la tête et perdre la foi, ce qui est plus grave. Les missionnaires en Chine, dans le livre « L'étoile contre la croix » que je vous conseille une nouvelle fois, disent « Si nous avons commis une erreur, nous les missionnaires, c'est de ne pas avoir enseigné les vérités fondamentales de la philosophie à nos fidèles, parce que eux, les communistes, avaient de la philosophie à dessous, qui ne valait pas grand-chose, mais qui, face à l'ignorance des fidèles, les a déstabilisés. » Dans la philosophie, principalement ce que la raison nous dit sur Dieu. La philosophie n'est pas une chose compliquée, c'est ce que toute la raison nous permet de connaître. De connaître dans la profondeur des choses, bien entendu. Pourquoi il est important de rappeler la connaissance par la raison? Parce que Dieu respecte son œuvre. La grâce ne détruit pas la nature. La révélation ne détruit pas la raison. Il y a eu, au XIXe siècle, une erreur opposée. On les comprend, les pauvres, face aux francs-maçons et aux faux philosophes qui mettaient tellement en avant la raison pour nier la révélation et la foi. Des chrétiens ont réagi trop loin et à tort en disant, pour connaître Dieu, il n'y a que la foi, la raison est impuissante. Ils pensaient du coup mieux connaître Dieu et avoir une connaissance plus forte de Dieu, puisque la foi, évidemment, est la connaissance la plus élevée et la plus certaine et la plus solide qui soit. Mais l'Église a dit non. Cette connaissance existe et elle est très importante, mais elle ne détruit pas la connaissance de la raison. D'autant plus que, envers les païens, comment voulez-vous argumenter autrement? Avec ceux qui acceptent l'Écriture sainte, vous avez argumenté avec l'Écriture sainte, avec les protestants, encore qu'ils ne l'acceptent pas tant que cela. Mais avec ceux qui n'acceptent aucune révélation, vous n'avez plus que la raison, et donc il est important, parce que la raison est un marchepied pour prendre le chemin de la foi. Surtout quand on constate que, dans les faits, seuls les chrétiens ne tordent pas la raison naturelle, dans les choses essentielles, je veux dire. Oh, parce qu'il y a des païens qui connaissent beaucoup de choses en physique, en chimie, et que sais-je. Mais lorsqu'il faut monter vraiment dans le cœur des choses, entrer dans le cœur des choses, de fait, on constate que c'est très difficile aux non-chrétiens d'entrer dans ces connaissances sans les tordre. Des philosophes comme Aristote sont une exception, et encore, il a fallu qu'il rectifie toutes les erreurs de Platon, de Socrate, qui sont de grands philosophes, mais qui avaient faussé beaucoup de choses. Vous verrez ensuite dans un autre sermon que la raison se fait servante de la théologie, et bien sûr, quand vous discutez avec des païens, les arguments de raison sont les seuls que vous pouvez leur faire entendre, ce qui ne veut pas dire que vous ne parlez pas de la foi. Mais vous allez utiliser la raison pour montrer la cohérence de la foi, la beauté de la foi, pour donner des raisonnements, sachant, mais je vous ferai un sermon là-dessus, sachant que pendant que vous parlez, Dieu travaille dans l'âme de celui qui vous écoute. Et c'est ce qui fait la puissance de la prédication. Que sait-on de Dieu par la raison? Tout d'abord, on sait qu'il existe. Parce que on remonte de l'effet à la cause. Dans les autres sermons, vous verrez cela, nous aurons des sermons sur la preuve de l'existence de Dieu, nous développerons tout cela. Quand vous lisez un livre, vous finissez par connaître beaucoup de choses sur l'auteur. Avec son style, vous connaissez la langue qu'il emploie, quelquefois le pays d'où il est d'originaire. Si c'est un homme, une femme, c'est beaucoup de choses. Eh bien, c'est la même chose. La nature est un grand livre qui nous parle de Dieu et qui montre que Dieu existe. Et elle nous fait connaître les perfections que révèlent ses œuvres, qu'il est un, qu'il est infini, qu'il est la sagesse suprême, qu'il est la source de toute bonté, qu'il est le créateur. Tout cela, c'est important. Bien, je pose les bases maintenant. Nous n'allons pas entrer dans l'étude de Dieu par la raison tout de suite. Nous vous montrons que la raison est capable de le connaître et puis nous allons voir également la révélation. Le sermon que je vous fais est peut-être un peu austère, c'est possible, mais c'est nécessaire pour que nous puissions après ça goûter la joie de l'étude de la sagesse et en profiter, comme dit saint Thomas d'Aquin. Deuxième manière de connaître Dieu, la révélation. Et saint Thomas pose la question, est-elle nécessaire la révélation? Il répond oui, parce que la raison est impuissante à entrer dans l'intimité de Dieu. La raison voit les œuvres extérieures, donc elle connaît l'extérieur de Dieu, mais elle ne connaît pas son intimité profonde. Je vais vous donner des exemples. Je peux connaître beaucoup de choses sur un homme à partir de ce qu'il fait. Je vois la statue, donc je peux connaître beaucoup de choses sur le statuaire. Mais je ne peux pas connaître sa pensée intime, sauf s'il la manifeste, s'il nous l'a dit. Un autre exemple, les sujets connaissent du roi ce qu'il fait pour eux, ils peuvent en déduire un certain nombre de qualités du roi et une certaine connaissance du roi, mais ils ne savent pas ce que, dans l'intimité familiale, le roi dit à son épouse. Il faudrait que le roi le révèle. Et évidemment, je vous prends là des exemples naturels. Saint Thomas prend un autre exemple. Il dit, nous pauvres hommes, nous n'arrivons pas à comprendre ce que les anges savent. Et pourtant, la distance entre l'ange et l'homme est beaucoup plus petite que la distance entre l'ange et Dieu. Dieu est infiniment au-dessus de l'ange, alors que l'ange n'est pas infiniment au-dessus de l'homme. Et il en conclut, même l'ange connaît beaucoup de choses sur Dieu, mais ne peut pas entrer dans son intimité. D'ailleurs, si l'ange était par nature dans l'intimité de Dieu, Satan ne serait jamais tombé. Saint Paul aux Corinthiens dit, l'œil de l'homme n'a point vu, son oreille n'a point entendu, son cœur n'a pas pu s'élever à comprendre ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Pour cela, il faut la révélation. Donc c'est la deuxième manière de connaître Dieu, ce que Dieu nous dit sur lui-même. Saint Paul aux Hébreux, Dieu qui a parlé à nos pères par les prophètes plusieurs fois et de plusieurs manières, nous a parlé en ces derniers temps et de nos jours par son Fils. Et il est évident que l'étude de la parole de Dieu va être d'un autre niveau que l'étude de la simple raison. Alors, mes bien chers frères, faites bien attention, Dieu aurait pu ne pas nous révéler le secret, le mystère de sa vie intime. Il n'y était pas obligé. La vie des trois personnes divines. Mais elle a voulu nous élever à vivre dans la sainte société du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ce que dit Saint Pierre, la Sainte Trinité, et pour cela, il fallait évidemment qu'il se fasse connaître. On ne peut pas être ami sans se connaître, et Dieu voulait que nous fussions amis, et donc il se fait connaître à nous, parce que lui, il nous connaît déjà. Le grand caractère, deux grands caractères de cette révélation, premièrement, elle est gratuite, elle n'était pas due. Et deuxièmement, elle est surnaturelle, au-dessus de la nature. Et donc, c'est la troisième partie de ce sermon. Ce qu'il faut pour que la révélation parvienne jusqu'à nous. Premièrement, il faut que Dieu parle, c'est la révélation, ça c'est une évidence. Deuxièmement, il faut que cette parole parvienne jusqu'à nous, c'est l'Écriture sainte et la tradition de l'Église. Je vous développerai plus tard ce qu'est la tradition, mais c'est la parole de Dieu. Comme l'Écriture sainte. Troisièmement, il faut une garantie, c'est celle que nous donne l'Église, parce que l'Église a reçu de Dieu les promesses de la vie éternelle, et que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper, et donc il nous donne l'Église pour que nous soyons certains de ne pas nous tromper, je dis bien l'Église, je ne dis pas tel ou tel pape, bien entendu. L'Église qui a la charge de conserver et d'exposer les vérités révélées. Quatrièmement, il faut quelque chose dans le chrétien lui-même pour qu'il comprenne ce qui lui est dit, puisqu'il s'agit de quelque chose de surnaturel, au-dessus de la nature. Il va falloir que la nature soit élevée pour comprendre ce que Dieu lui dit. Par exemple, on peut toujours parler de mathématiques à quelqu'un qui n'a pas la bosse des maths, ça ne lui dit rien. Et encore, là, est-on dans le domaine naturel, parce que même celui qui n'a pas la bosse des maths peut quand même faire un effort pour entrer dans l'enseignement des mathématiques. Mais comment voulez-vous parler à une simple créature de l'intimité de Dieu si cette créature n'a pas en elle tout d'abord une lumière et puis une capacité, une vertu que nous avons déjà vue? Oui, nous l'avons étudiée, la vertu de foi. Enfin, cinquièmement, Dieu vient au secours de notre faiblesse par les miracles, les prophéties, qui vont faire le lien entre la raison et la foi. Les miracles et prophéties s'adressent à la raison pour montrer que la raison doit grimper une marche supplémentaire pour entrer dans la vérité de la foi. Évidemment, les miracles et les prophéties n'obligent pas à croire, mais ils sont l'aide la plus puissante à la raison pour entrer dans le mystère de la foi. On voit que des païens, par exemple Joseph Fadel, a été aidé par un miracle, et il n'est absolument pas le seul. Il y en a beaucoup qui ont été aidés par un miracle pour faire le pas, le saut même. Voilà, je conclus ce sermon. Soyez conscients de la valeur inestimable du trésor de la révélation. Eh bien, chers frères, c'est terrible ça. Quand on pense que beaucoup de chrétiens n'y font plus attention, ou même s'ils y font attention en théorie, ils n'y font pas attention en pratique, et que vous avez pendant ce temps-là des païens ou des gens qui ont perdu la pratique et qui cherchent, se donnent du mal. Si vous saviez, j'ai encore reçu une personne il n'y a pas longtemps au prieuré, et puis je vous en ai parlé pour le cadeau de la Sainte Vierge le jour de la fête du rosaire. Vous avez des gens qui cherchent, qui se donnent du mal pour trouver la vérité, qui savent qu'ils vont la trouver parce qu'ils ont eu une petite lumière, une petite lueur, et puis qui finissent par la recevoir. Et pendant ce temps-là, on a des chrétiens qui la possèdent et qui n'en tiennent pas grand compte. Alors faites bien attention, mes bien chers frères, et demandez à la Sainte Vierge de vous aider à estimer en théorie et en pratique ce trésor inestimable que son Fils est venu nous révéler. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.